Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré au rapport entre police et société à l'occasion de notre émission mensuelle avec notre partenaire La Croix. À l'ordre du jour ce soir, comment réconcilier police et citoyens? Le mois qui vient de s'écouler a-t-il été caractérisé par plus d'agressions contre les policiers et les gendarmes que les mois précédents? Peut-être pas, mais l'attaque spectaculaire du commissariat de Champigny-sur-Marne et l'agression contre deux policiers à Savigny-sur-Orge ont frappé les esprits, alors même que sortait en salle le film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, consacré aux violences entre policiers et gilets jaunes, et également le livre Flic qui sortait en librairie, résultat de l'infiltration d'un journaliste, Valentin Gendreau, dans une brigade parisienne de gardiens de la paix. Deux visions de la police apparemment irréductibles se font face. L'une dénonçant ces violences, tandis que l'autre insiste sur la violence de ceux qui détestent la police. Quel travail faut-il entamer pour faire dialoguer ces deux approches? Est-ce même possible? C'est ce que nous allons voir avec Béatrice Bougnol du quotidien La Croix. Bonsoir Béatrice.
Bonsoir.
Et nos trois invités avec Juliette Alpha. C'est un pseudonyme, vous êtes gardien de la paix en service d'investigation à Paris et vous avez publié avec le sociologue Mathieu Zagorski « Vie ma vie de flic » chez Hugo Doc cette année, un ouvrage dans lequel vous racontez votre travail quotidien. Bonsoir Juliette Alpha.
Bonsoir.
Avec nous également Laurent Jeanne. Laurent Jeanne, vous êtes maire de Champigny-sur-Marne depuis 2020, depuis cette année. Vous êtes également conseiller régional d'Île-de-France, vice-président du territoire Paris-Est, Marne et Bois. Et vous avez été élu sur la liste Champigny-Alternance, qui notamment a réalisé sa campagne sur la lutte contre l'insécurité. Ça n'était pas le seul sujet, mais c'était un sujet important. Bonsoir Laurent Jeanne.
Absolument, oui, bonsoir.
Et avec vous, nous également en studio à Paris, Jacques de Maillard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes directeur du CESDIP et vos travaux portent sur les questions de sécurité intérieure et de comparaison des polices et de leur réforme. On en parlera avec vous.
Oh bah au cinéma, on n'y va que la journée parce que justement, on a peur de se faire attaquer le soir.
C'est-à-dire, on a un nouveau maire là qui va mettre une police municipale qu'on attend depuis des années. Alors là, on attend parce qu'il vient d'être élu, mais on est un petit peu soulagé.
Pour Mamadou, cette nouvelle police municipale n'est pas la solution. Ce militant associatif juge que le dialogue s'est rompu avec la jeunesse des cités.
On a eu déjà des renforts de police, la BST, la PSQ, toutes formes de police qui sont installées sur ce commissariat. On voit bien que ça n'a pas apaisé les choses, donc je pense que ce n'est pas la police municipale qui va régler ce type de problème.
Bonsoir à tous, vous êtes Laurent Jeanne, maire de Champigny-sur-Marne. Ce micro-trottoir a été réalisé par Marion Ferrer, diffusé sur France Culture 2 jours après l'attaque du commissariat de Champigny. On entendait des habitantes et un militant associatif de votre ville. On voit bien que une des questions qui complexifie peut-être la question que nous allons poser, c'est qu'il n'y a pas qu'une police, il y a des polices. Et vous voulez justement créer, développer une police municipale armée dans votre ville. Il y aurait donc différentes polices et il faut peut-être mettre les rapports entre citoyens et police avec un police au pluriel.
Oui, je pense qu'effectivement il existe différentes polices parce qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes missions et c'est important aujourd'hui d'avoir une cohérence en termes d'organisation des missions qui fait défaut. Effectivement, moi je suis maire maintenant depuis 3 mois dans une commune qui était communiste depuis 73 ans, où il y avait une approche tout à fait idéologique de dire qu'il ne fallait pas de police municipale, qu'il ne fallait pas de vidéoprotection. Et le constat qu'on a pu faire, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'aujourd'hui la police nationale n'est plus en capacité de régler, ou en tout cas plus en capacité de régler seule, et qu'elle a besoin aussi de s'appuyer sur certains axes d'une police municipale qui dispose de moyens un peu différents. Et puis, moi, je suis pas parti d'une idée simplement au cours d'une campagne électorale. J'ai écouté les gens, notamment les gens qui habitent dans ce quartier du Bois-l'Abbé. Et on avait fait un sondage en porte-à-porte, très qualitatif, où on a consacré 15 à 20 minutes à chaque personne. Et avec deux questions qui concernaient le sujet de la sécurité. Le premier, c'était « Est-ce que vous vous sentez en insécurité ?» Et le deuxième, c'était « Est-ce que vous souhaitez une police municipale ?» Un habitant sur deux nous disait qu'il se sentait en insécurité. Ce qui veut dire qu'un autre sur deux ne se sentait pas en insécurité et qui se sentait plutôt bien. Mais par contre, 95% nous ont dit « on veut une police municipale ». Parce qu'ils ont bien le sentiment qu'il y a aussi une part de la réponse qui peut être portée par une police municipale.
Béatrice Bougnol.
Oui, bonsoir Juliette Alpha. On vient d'aborder une première diversité des polices entre police nationale, police municipale. Pendant 5 ans, vous avez été en poste en police secours à Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la spécificité de cette police ?
Alors la police secours, c'est la police que vous pouvez voir au quotidien qui patrouille dans vos rues. Celle qui en sérigraphié, en uniforme, que vous pouvez voir intervenir dès que vous faites le 17. Donc c'est une police du quotidien, c'est une police qui est proche de sa population et qui connaît son secteur parce qu'elle est cantonnée vraiment à une ville ou à un arrondissement selon si vous êtes à Paris ou en ville. C'est une police qui est vraiment dédiée à la population et aux missions du quotidien que vous pouvez avoir, des tapages, des violences conjugales, des différends familiaux, des petits vols à l'étalage, du petit délit, de la petite délinquance du quotidien.
Mmh. Et justement, alors Jacques de Maillard, bonsoir. En face, j'allais dire, du pluriel de la police, il y a le pluriel des populations quand on se pose la question de réconcilier police et population. Quelle est exactement cette population qui devrait être réconciliée avec la police ou avec les polices? Et est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait de du niveau de confiance globale dans la population envers la police?
Alors, quand on regarde les études par sondage, on voit que la confiance générale, les bonnes opinions, c'est entre, selon les études, entre 60 et 75%.
Bonne opinion sur la police.
Voilà. Ça a un peu baissé selon certaines études ces derniers temps, mais c'est bonne opinion générale. Après, quand on pose des questions plus spécifiques, est-ce que les policiers justifient leur action ? Est-ce que les policiers traitent les riches et les pauvres de la même façon? Est-ce que les policiers prennent des décisions impartiales? Donc sur des questions plus précises, le niveau de confiance baisse un peu. Donc il y a quand même, au niveau général, et celui-ci pas spécifiquement sur certaines populations, une question quand même de la qualité relationnelle de la police avec les Français en général. Ensuite, effectivement, vous avez le problème complexe des relations qu'entretiennent les policiers, les forces de police, avec la population pauvre, concentrée dans les quartiers paupérisés, et généralement issue de minorités. Alors là, effectivement, ce qu'on voit, le micro-trottoir en rendrait compte aussi, et ce que disait Monsieur le maire également, c'est que quand on va dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, on voit qu'il y a quand même un niveau d'insécurité qui est plus élevé que dans le reste des agglomérations. Mmh. Mais la question est complexe, parce que c'est là qu'on voit que les gens jugent le plus souvent que la police laisse tout faire, mais c'est également dans ces territoires-là que les gens jugent plus qu'ailleurs que les descentes sont trop musclées. Donc il y a une vraie question de comment doser la bonne intervention policière.
Laurent Jeanne, est-ce que vous le ressentez sur le terrain depuis 3 mois que vous êtes maire de Champigny-sur-Marne? On se souvient évidemment de l'attaque du commissariat qui a été très médiatisée il y a quelques jours. Est-ce que vous ressentez cela? Justement, cette différence de perception?
Oui, il y a une différence de perception et il y a aussi des différences de quartier. Bon, moi, cette ville, je la connais bien puisque j'y suis né et que je m'occupe de politique de la ville aussi bien au niveau de ma commune qu'au niveau de la région. Donc, c'est vraiment mon sujet, je suis un élu vraiment de banlieue. Et depuis quelques années, j'ai constaté effectivement une évolution du rapport entre une partie de la population et la police, d'une façon générale, puisque moi, j'ai pas de police municipale pour l'instant, mais la police nationale, mais qui est aussi liée à la fois à peut-être au dosage effectivement du degré d'implication de la police en fonction des situations qu'elle a à gérer, mais aussi en fonction d'éléments un peu différents, c'est-à-dire que vous avez des réactions aussi notamment à l'égard de la jeunesse qui parfois peuvent amener à quelques excès. Et là, ça a été le cas sur les événements qui se sont produits, qui auraient pu se terminer par un drame. Eh bien, c'était une réaction, une contre-réaction à la suite d'un incident où la police n'était pas responsable, mais elle était impliquée. Et donc, on a fait tout de suite un amalgame. Et on sent bien qu'il y a cette tension et qui est devenue d'autant plus particulière à la suite de cette période de confinement. Mm-hmm. Ça s'est renforcé de façon assez nette.
Dans votre propre travail, Juliette Alphin, que vous racontez dans Vie ma vie de flic et que vous pourriez nous raconter, dont vous pourriez nous raconter les épisodes après, puisque ça a été publié en début d'année, est-ce que vous ressentez justement ce durcissement que vient d'évoquer Laurent Jeanne, en particulier depuis le confinement?
Alors oui, évidemment, les retours que j'ai de mes collègues et même les miens sont clairs là-dessus. Vous avez vraiment une partie de la population hein, qui a une certaine haine de la police, mais de l'uniforme en général et de ce qu'il représente. Parce que c'est surtout ça. C'est pas le policier en lui-même qu'il déteste, c'est ce qu'il représente. Donc c'est l'autorité de l'État et entre guillemets une forme de justice. Au quotidien, c'est assez compliqué pour un policier d'arriver à faire comprendre à ces jeunes, parce que c'est de cela dont on parle, que ce qu'il représente, ce n'est pas la personne qui a derrière l'uniforme.
C'est d'ailleurs pour ça que vous avez pris un pseudonyme et que vous témoignez généralement lorsque vous donnez des interviews, vous faites à visage couvert puisque vous ne voulez pas ni engager vos collègues de travail ni même votre propre famille dans cet engagement qui est le vôtre.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai choisi vraiment de faire ce livre, de l'écrire parce que pour moi, c'était vraiment nécessaire. Mais ma famille ou mes collègues n'ont pas choisi de le faire avec moi. Donc, c'est vraiment pour moi primordial de préserver mes proches et mes collègues, mais aussi moi, parce que quand je rentre le soir, je suis pas sereine, et mes collègues ne le sont pas.
Béatrice Bougnol.
Oui, Jacques de Maillard, il y a peut-être un élément qu'il faudrait ajouter pour compléter un peu ce premier tableau général, c'est la comparaison européenne, c'est-à-dire que cette défiance, en fait, qui existe avec en tout cas une partie de la population, entre la police, pardon, et une partie de la population, que vient de bien souligner Juliette Alpha, au niveau européen, est-ce que c'est une spécificité française, en fait? A priori, on n'arrive pas très haut dans l'échelle de la confiance entre population et police.
Oui, c'est vrai que si on compare la France aux pays scandinaves, par exemple, le différentiel de confiance est énorme. Mais c'est plus intéressant de comparer la confiance avec des pays de taille équivalente et avec des populations semblables comme Royaume-Uni ou comme Allemagne. Et là, c'est vrai que sur toutes les questions qu'on peut poser, la légitimité de la police, la confiance dans la police, le jugement sur l'action de la police, est-ce que la police est équitable, est-ce qu'elle explique ses décisions, effectivement la France a décroché. La question qu'on peut se poser immédiatement, c'est pas que la France a décroché, c'est qu'il y a un écart vraiment énorme, c'est-à-dire que la France est tout en bas avec des pays où la dimension démocratique est pas très forte. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est d'où ça vient et comment l'expliquer. Est-ce que c'est une défiance plus générale de la population vis-à-vis de l'État, ou est-ce que ça tient au mode d'action des forces de police? Et on n'est pas toujours capable de l'expliquer. Ce qu'on peut dire quand même, au vu de certaines études, c'est que, par exemple, les policiers allemands ne conduisent pas les contrôles de la même façon que les policiers français. Ils y ont beaucoup moins recours, ils sont beaucoup plus informels dans la façon de le gérer. Ils ont appris à désescalader les tensions. Donc, il peut y avoir des éléments qui tiennent à la fois des facteurs culturels, mais aussi au mode de recrutement, au mode de formation et au mode de gestion des policiers.
Juliette Alpha, vous devez en discuter de cela avec vos collègues là où vous vous trouvez à Paris. Est-ce que vous discutez justement de cette différence qui est notable, d'après ce que dit Jacques de Maillard, avec d'autres pays européens, dans le regard que porte la population sur vous-même?
Oui, tout à fait. On ne se cantonne pas à la France, que ce soit moi ou mes collègues. Ça nous arrive à tous de voyager et d'aller dans des pays limitrophes, notamment en Europe. Et on se rend très vite compte de la différence de traitement, de vision et l'image que les policiers étrangers ont avec leur population. Quand vous allez au Portugal, en Espagne, en Italie, etc. En tout cas, moi, c'est ces pays-là que j'ai fait. Et j'ai toujours été surprise d'à quel point les policiers sont respectés là-bas et à quel point la parole du policier... elle a un poids énorme.
Mais ça vous interroge? non seulement de la part des citoyens, mais de la part de la position de vos collègues des autres pays qui ont peut-être une autre attitude, comme le disait Jacques de Maillard, vis-à-vis des citoyens qu'ils croisent. Est-ce que ça vous interroge dans les deux sens?
Ça interroge forcément, parce qu'on se demande quelle est la différence entre la formation qu'ils peuvent avoir et la nôtre, quelle est la différence entre la justice qu'ils peuvent avoir et la nôtre. Mais ça, c'est des études un peu plus poussées, et évidemment, nous, on n'a pas accès à tout ça. Par contre, de là à dire que les policiers français ont une mauvaise attitude là-dessus, je vous le dirai jamais, parce que c'est faux. On a une formation qui est assez complète, vraiment, et au quotidien, quand vous êtes confronté à des contrôles difficiles, etc., je pense sincèrement que les policiers français ont un sang-froid, un discernement et un calme olympien. Vraiment.
Béatrice Bougnol.
Alors justement, Juliette Alpha, on peut peut-être continuer avec vous pour évoquer un mouvement qui a beaucoup marqué les relations entre la police et la population dans un passé proche, c'est celui des Gilets jaunes. Vous ouvrez justement votre livre par la description de ce 1er décembre 2018 où vous vous retrouvez sur les Champs-Élysées avec des mots très forts, hein, puisque vous écrivez « Je n'ai jamais assisté à pareille violence, aussi concentré en quelques minutes face à des individus qui veulent ma mort et celle de mes collègues et qui ne s'en cachent pas. Est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes a marqué une rupture définitive, enfin pas, peut-être pas définitive, mais en tout cas une rupture dans les relations entre la population et la police selon vous ?
Évidemment, pour moi, il y a une scission qui s'est créée suite à ces mouvements et surtout au traitement médiatique qui leur a été réservé, que ce soit dans les médias normaux, on va dire, et les réseaux sociaux. Vous avez énormément de vidéos, de photographies, etc., qui ont tourné, qui ont fait que, par manque d'explication, que ce soit de la nôtre ou que ce soit des médias, ont permis d'alimenter une certaine théorie du complot sur la police violente, etc. Et ça a enchaîné tous les samedis. Évidemment que ça a créé un sentiment, je pense, de rejet d'une certaine partie de la population qui déjà de base avait peut-être des a priori et certains une rancœur contre la police. Ça a pas arrangé les choses. Je pense que la communication qui a été faite de notre part dans les premiers temps a été hasardeuse et peut-être compliquée parce que c'était tout nouveau et qu'il a fallu que on s'adapte. Voilà, l'adaptabilité, ça fait vraiment partie de nos qualités premières dans la police, parce qu'on doit savoir tout gérer et s'adapter à tout. Mais parfois, on n'est pas parfait, hein, on est des humains. Les erreurs peuvent être commises.
Jacques de Maillard, on a l'impression, quand on regarde de loin, avec un peu de recul, un peu en historien du temps présent, on voit les manifestations de la loi travail, c'était avant, les gilets jaunes, effectivement, tout ce qui s'est passé depuis comme étant une montée dont on pourrait penser qu'elle est irréductible d'une certaine façon vers une violence de plus en plus grande vis-à-vis des forces de l'ordre et peut-être en retour aussi, comme le dit le film de David Dufresne, des forces de l'ordre sur les manifestants.
Oui, on a observé dans la durée une baisse considérable du nombre de morts lors des opérations de maintien de l'ordre. Donc on a eu une tendance séculaire à la pacification du maintien de l'ordre. Et là, ce que l'on observe, ça se traduit pas nécessairement par des morts, mais on observe un dérèglement lors de ces dernières années avec des forces de l'ordre qui sont plus en mesure de gérer pacifiquement des opérations de maintien de l'ordre, comme elles pouvaient le faire il y a de ça 10 ou 15 ans. Et donc ça pose la question de comment est-ce que les forces de l'ordre vont pouvoir s'adapter à ces nouvelles formes de mobilisation. Ce qui illustre quand même le mouvement des Gilets jaunes, c'est que ce dérèglement, il s'est traduit par l'utilisation notamment de forces qui n'ont pas l'habitude d'intervenir en maintien de l'ordre, qui ont été complètement désarçonnées parce qu'il y a eu un désordre complet, et qui ont fait un usage d'armes pas appropriées pour ce qu'elles auraient dû être, c'est-à-dire les lanceurs de balles de défense.
Oui, on s'en souvient bien, il est 18h40 sur France Culture, vous écoutez le temps des débats, nous nous posons la question avec notre partenaire Lacroix et Béatrice Bougnol de comment réconcilier police et citoyens, c'était le 1er décembre 2018.
Allez, Culture. Le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Désolé de vous faire revivre par le son ce que vous avez vécu sur les Champs-Élysées à ce moment-là, Juliette Alpha, mais j'imagine que ce sont des sons qui vous rappellent quelque chose. Est-ce que justement ce que disait Jacques de Maillard à l'instant même, à savoir que dans la question de la stratégie, d'une certaine manière, et vous parliez tout à l'heure de communication, il aurait pu en être autrement, et que vous, par le livre que vous écrivez, par les tweets que vous envoyez, vous tentez justement de rendre visible votre travail de policière très différemment de l'image qu'on en a généralement.
Oui, totalement. Je pense qu'à l'heure de 2020, il est temps peut-être de se rendre compte que les citoyens et les gens ont une attente spécifique de la communication. Et la preuve en est, c'est que, à l'heure actuelle, vous avez trois types de communication de la part de la police. Vous avez la communication institutionnelle, vous avez la communication syndicale, et à partir de depuis quelques années, vous avez une communication des flics de base, des flics de terrain, des flics du quotidien.
Mais vous êtes autorisé par votre hiérarchie à la faire, cette communication tout de même.
Alors oui et non, on prend le droit de le faire parce que on a un devoir de réserve certes, mais on a aussi une liberté d'expression comme tout citoyen. Moi, le droit, je l'ai pris de moi-même. Hein, le livre, je l'ai écrit de moi-même sans demander aucune autorisation. Il a été très bien accueilli, que ce soit par le public, mais aussi par ma hiérarchie, et j'en suis très contente. Ça veut dire vraiment qu'il y a une réelle avancée et qu'on en a fini avec cette forme d'omerta qu'on pouvait avoir depuis plusieurs années. Il est temps qu'on s'ouvre et qu'on explique ce que c'est notre métier. Personnellement, voir mon métier relayé à des émissions sur W9 Énergie 12, j'en pouvais plus.
Oui, parce qu'il y a eu aussi cette popularisation, faut le rappeler pour les auditeurs qui ne regardent pas toujours la télévision, par certaines chaînes de télévision, de cette figure du policier qui intervient la nuit, le jour, etc., avec des caméras qui le suivent, etc. Et ça fait partie aussi d'un certain type de rapport visuel à la police qui a pu être développé par certaines chaînes depuis quelque temps. Béatrice Bougnol.
Oui, Laurent-Jeanne, justement, au niveau d'une ville comme celle, comme Champigny, est-ce que, effectivement, cette explication du rôle des policiers peut-être mieux se faire à destination d'une population qui les fréquente, j'allais dire, au quotidien? Comment vous pensez cette nécessaire réconciliation entre police et population à l'échelle de votre ville?
Moi, je trouve qu'il n'y a pas un désamour. Hein. C'est ce que révélait un petit peu votre micro-trottoir. Mm-hmm. Quand je vous dis que 90 à 95% des habitants me demandent une police municipale, et vous voyez, dans un quartier comme qui est en QPV, qui est un quartier en politique de la ville, qui va transformer en rénovation urbaine avec l'ANRU, dans ce quartier où s'est passé ces incidents il y a une dizaine de jours, les gens disent, nous, on veut garder le commissariat dans le quartier. Pour nous, c'est un élément essentiel. Donc il n'y a pas un désamour avec la police, il y a juste une part qui est devenue un peu plus violente. Ça a été le cas avec les gilets jaunes, mais une part de la population qui est devenue nettement plus violente. Et dans les incidents qui se sont déroulés il y a 10 jours, la volonté de la part d'une quarantaine de jeunes de venir avec des barres de fer pour casser du flic en se disant, voilà, on va répondre à une provocation qu'on a eue par une autre provocation, mais qui a une toute autre résonance en matière de violence. Il y a une violence qui est nouvelle, et j'ai constaté au cours des dernières années que la professionnalisation des policiers est devenue quand même largement plus forte, qu'ils arrivent aujourd'hui à mieux gérer ces situations, Mais il y a de l'autre côté de la rue, au fond, il y a une violence encore plus forte avec des moyens un peu différents et qui a une difficulté effectivement avec cette petite partie de la population qui pourrit parfois la vie de ces quartiers à engager un dialogue. Alors nous, on essaye là depuis, je l'avais fait même déjà avant ces incidents, de faire des rencontres entre les plus jeunes et les policiers. Ça fonctionne bien globalement, mais voyez, jusqu'à 11-12 ans, on arrive encore à capter les jeunes. 13, 14, 15 ans, c'est quasiment perdu. Mmh. Ils n'accrochent plus à ces sujets-là et on a une véritable difficulté.
Jacques de Maillard, quelles sont, selon vous, des solutions à mettre en œuvre pour justement réconcilier ou rapprocher police et citoyens dans ces contextes extrêmement tendus que vient de nous décrire Laurent Jeanne ?
Le point de départ, c'est que on a des événements dramatiques, spectaculaires, comme on les a là. Or, le travail de réconciliation, d'apaisement, c'est nécessairement un travail qui se fait sur la durée. Et que ces événements-là, comme ils marquent la mémoire collective, ils peuvent complètement aller dans le sens contraire et rendre ce travail d'apaisement difficile.
Ils s'ajoutent les uns aux autres parce qu'effectivement il y a à peu près tous les 15 jours ou tous les mois une nouvelle de policiers agressés, de policiers attaqués, etc. Donc ça s'ajoute.
Exactement. Ou inversement.
Ou inversement, bien sûr. Oui.
Donc et du coup cette dimension dramatique rend le travail d'apaisement difficile. Moi ce que je dirais c'est deux choses. D'abord il y a une dimension performative dans tout ça. C'est-à-dire que quand vous avez en tête le fait que vous n'êtes pas aimé, c'est d'autant plus difficile d'arriver à faire un travail au contact des territoires. Il y a une deuxième dimension, c'est que souvent les policiers, ça a été dit, se sont professionnalisés, ils ont une meilleure connaissance du droit et de ce qu'ils peuvent faire au nom du droit, mais parfois en décalage par rapport à ce que peuvent attendre la population. Il y a eu des expériences très intéressantes aux États-Unis qui ont montré que les policiers sont centrés sur le droit, la population est centrée sur la justice, la qualité, l'impartialité des décisions policières. Et peut-être une dernière chose, c'était dit, mais c'est vrai qu'on a une vision souvent très faussée du travail policier. C'est pour ça que le témoignage de Juliette Alpha est intéressant, parce que c'est ce qu'est le travail de police au quotidien. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que l'une des difficultés majeures, c'est comment est-ce qu'on arrive à toucher cette population-là, avec lesquelles les relations sont très, très dégradées. Et je pense que pour en sortir, la seule utilisation de la force ne sera pas suffisante.
Béatrice Bougnol.
Oui, Juliette Alpha, quel est votre sentiment? Ça poserait, enfin, ce que vient de dire Jacques Maillard pose quelque part la question de la formation aussi des policiers. Est-ce que vous pensez qu'ils sont assez formés aujourd'hui, par exemple, à la diversité culturelle, à la diversité des territoires? On dit beaucoup que dans ces quartiers difficiles, justement, ce sont des jeunes policiers qui sont envoyés pour leur première mission. Quelle vision vous avez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de formation?
Je pense pas qu'il y ait un problème de formation à proprement parler sur la formation théorique.
Oui.
Parce qu'elle est vraiment très complète et on a des formateurs qui sont hyper aguerris et qui nous forment tout au long de plusieurs mois. Là où personnellement, mais c'est vraiment un avis que j'ai avec du recul et en ayant eu forcément des jeunes policiers sortir d'école que j'ai dû avoir sous ma coupe au début, parce que ça va très très vite les responsabilités sur Paris. Et ce que j'ai ressenti moi aussi en étant externe, en n'ayant pas été adjoint de sécurité, en ayant fait la fac de droit et en sortant après ma scolarité de policière, tout de suite à Paris, je me suis dit j'aurais aimé avoir plus de stages, plus de temps sur le terrain avant d'être affecté définitivement. Et pour moi, ça partirait du principe qu'il faudrait une formation qui se déroule sur presque 2 ans, étalée et entrecoupée de stages dans des commissariats, notamment de banlieue ou de zones difficiles, qui puissent du coup nous préparer beaucoup plus facilement et par la pratique à notre futur métier.
Est-ce que la suppression de la police de proximité, que vous n'avez pas connue puisque vous êtes trop jeune dans le métier, j'imagine, pour l'avoir véritablement connue, remplacée par la police du quotidien, est-ce que vous pensez que c'est une difficulté justement pour, en particulier ce dont on parlait avec Laurent Jeanne de Champigny-sur-Marne ou avec Jacques de Maillard, pour des quartiers où les relations sont extrêmement tendues et très difficiles?
Je pense effectivement que ça a été une erreur de notre ministère à l'époque et qu'on en paye les pots cassés quelques années plus tard. La police de proximité, elle avait vraiment le don en fait d'avoir une mine d'informations, donc très importante aussi pour les renseignements, et aussi une mine d'informations concernant les territoires, les populations et les jeunes du quartier avec lesquels ils étaient très proches. Pas dans le sens ami, mais dans le sens où ils les côtoyaient au quotidien, tous les jours, parce que c'était ça leur travail. Et ça a été une déperdition d'informations, que ce soit pour le renseignement, mais aussi pour la police de proximité. Et aujourd'hui, on essaie de rattraper tout ça en créant une nouvelle police de sécurité du quotidien, alors que finalement, elle existe déjà avec la police secours. C'est juste qu'il faudrait lui rajouter de l'humain, des moyens matériels et financiers. Et finalement, la police secours a fait déjà ce travail.
On vous en a promis des moyens. En tout cas, votre ministre vous en a promis récemment. Jacques de Maillard et Laurent Jeanne sur cette question. Sur la question de la police de sécurité du quotidien plutôt.
Disons que la police de sécurité du quotidien, on a du mal à en saisir les contours. Autant la police de proximité, ça avait été une logique avec une définition d'une doctrine claire et de mise en place de moyens de façon relativement volontariste, avec les défauts de ce volontarisme, c'est que il faut gagner les cœurs et les esprits des policiers pour faire une réforme. La police de sécurité du quotidien, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que la doctrine n'est pas très clairement définie et surtout, elle ne concerne pas les modes d'action individuels des policiers dans les territoires. Vous avez un investissement sur la dimension partenariale, vous avez de nouveaux dispositifs partenariaux. En revanche, l'un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on fait la police du quotidien en tant que police secours, en tant que diverses unités de voie publique, comment est-ce qu'on travaille cette question de la relation avec la police. Aujourd'hui, d'après les éléments qu'on a, ça n'a pas été la dimension qui a été poussée dans cette réforme, et c'est sans doute, de mon point de vue, une lacune.
Laurent Jeanne, vous qui rajoutez ou souhaitez rajouter à la police nationale dans votre territoire de Champigny-sur-Marne une police municipale, est-ce qu'elle serait entre les deux, justement, proche de cette police du quotidien, connaissant son territoire plus approfondie que la police nationale? Qu'est-ce que vous attendez de cette police municipale et en quoi serait-elle différente de la police nationale? Est-ce que c'est juste parce qu'il y a moins d'effectifs et que vous en rajoutez de la part de votre propre municipalité?
Alors, en termes d'effectifs, nous, on n'est pas si mal doté que ça. On n'a pas encore tout à fait les effectifs qui seraient nécessaires par rapport à la taille du commissariat et de la commune, par rapport aux besoins. Ceci étant, on n'est pas totalement dépourvu. On est le seul quartier en reconquête républicaine, un QRR, dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, du Val-de-Marne. Donc, on a vraiment un dispositif qui a été renforcé, même si tous les effectifs ne sont pas encore arrivés. Et le ministre Darmanin s'est engagé à les mettre en œuvre à la suite de ces incidents. Une des difficultés qu'on a par rapport à ce dispositif, c'est aussi la stabilité des équipes. Certes, je l'ai dit, les effectifs sont mieux formés aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais on a une difficulté de stabilité des équipes avec des gens qui ne maîtrisent pas parfaitement leur territoire, parce que ils sont mutés au bout de 2-3 ans, ils viennent de la province, et on a une vraie difficulté à ce niveau-là. Moi, au niveau de la police municipale, l'objectif, c'est de mettre en place avant toute chose un système de vidéo sur l'ensemble de la commune, et que ce soit la police municipale qui active et qui gère ce réseau de vidéosurveillance, qui puisse intervenir sur des missions qui ne sont pas traitées aujourd'hui comme des questions de petites délinquances, comme des voies de fait sur la voie publique, des problématiques de stationnement qui sont plus larges que le cadre que peuvent gérer les ASVP. Et donc là, on a une vraie complémentarité. Aujourd'hui, le nombre de cas, et encore les incidents d'il y a 10 jours l'ont bien révélé, où on a des policiers qui sont dans l'incapacité d'interpeller les contrevenants, ceux qui ont les voyous, qui ont commis ces faits, c'est parce qu'on n'a pas d'éléments vidéo. Donc ça, c'est un des problèmes majeurs. Et puis l'autre problème que vous avez évoqué, et qu'évoquait très, très justement Jacques de Maillard, c'est le problème de la reconnaissance de l'autorité de ces jeunes aujourd'hui. Ils ont une difficulté forte parce que quand ils ont commis des délits, parfois des crimes, on les retrouve 2-3 jours après dans la rue. Mais il y a une véritable difficulté pour un policier, qu'il soit de la police municipale ou de la police nationale, à être reconnu comme une autorité, alors que la sanction tombe des fois un an plus tard, un an et demi plus tard. Ouais. Et donc là, on a une difficulté à ce que cette autorité soit réellement reconnue.
Béatrice Mougnol.
Oui, il y a une autre difficulté peut-être, Jacques de Maillard, c'est celle de l'évaluation qu'on utilise pour évaluer l'action de la police. On a parlé de la formation, notamment pratique, des policiers. Mais est-ce que le système d'évaluation pourrait évoluer aussi pour prendre en compte justement une relation à la police qui ne serait pas forcément que répressive, mais qui serait plus fondée sur une qualité de la relation, sur une capacité, comme vous le disiez tout à l'heure, à faire désescalader une tension, comme c'est le cas dans d'autres pays, encore une fois, comme en Allemagne, je crois, par exemple.
Jacques de Maillard.
Oui, on mesure souvent ce qu'on a le plus de facilité à mesurer. Donc on va évaluer l'efficacité de l'action de la police à partir de la baisse de la délinquance. Or, la délinquance ne dépend pas uniquement de l'activité de la police. On va le mesurer à partir du taux d'élucidation, parce que ça, c'est des données qu'on a déjà disponibles. Or, quand on pense à ce que devrait être un bon service de police, c'est un service de police dans lequel on a confiance, c'était dit tout à l'heure, parce que un service dans lequel on a confiance, on lui donne l'information. C'est un service pour lequel, en tant qu'usager, on est satisfait. Et donc, il faut sans doute penser à des mesures moins évidentes, mais essentielles du point de vue du service public policier.
Sur ce point, Juliette Alpha, est-ce que vous pensez justement que d'autres méthodes d'évaluation pourraient rendre ce rapport entre police et citoyens meilleur ?
Alors, encore une fois, moi, je pense que la clé, c'est vraiment la communication et les explications. Et vous pouvez le voir aujourd'hui, que ce soit la communication institutionnelle ou les policiers qui se mettent à prendre la parole et à expliquer les choses et vice-versa. C'est vraiment quelque chose qui est attendu par la population et ça tend vraiment vers le meilleur.
Est-ce que vous...
Et on voit vraiment que c'est attendu.
Est-ce que vous craignez, dans le contexte actuel, et on vient de l'apprendre effectivement, l'élargissement de ce couvre-feu, évidemment après l'attentat horrible de la semaine dernière, est-ce que vous attendez justement une montée en violence, ou est-ce que vous ne craignez pas cela ? C'est-à-dire, est-ce que l'énervement, on parlait hier des risques psychologiques liés à cette très longue crise de la Covid, est-ce que cet énervement des citoyens fait monter la tension, ou vous la craignez encore plus, Juliette Alpha ?
Concrètement, on la craint. On sait très bien que le confinement, le couvre-feu, etc., c'est un effet cocotte minute sur les personnes qui ont tendance à la délinquance et à la criminalité. On sait très bien que c'est utilisé comme une excuse et comme une carte d'immunité pour s'en prendre aux policiers qui font les contrôles, que ce soit pendant le confinement ou que ce soit là avec le couvre-feu. On sait très bien que c'est la carte qui va être sortie et à côté de ça, c'est mes collègues qui vont en pâtir et qui vont subir ces réactions. Et c'est ça le problème, c'est que l'autorité aujourd'hui, que ce soit l'autorité de l'État représentée par les policiers et par les uniformes, elle est refoulée et elle est rejetée de manière quasi systématique dans certains quartiers. Mais ce n'est pas que les quartiers, et c'est aussi en plein milieu de la capitale, c'est aussi dans les villes, c'est aussi en province. Maintenant, le défier l'autorité et défier le policier, ça devient la norme. Et c'est ça qui est inquiétant et qui inquiète les policiers en général.
Merci à vous, Juliette Alpha, d'avoir témoigné sous pseudonyme. Vous êtes gardien de la paix à Paris. Vous avez publié avec le sociologue Mathieu Zagorski « Vie ma vie de flic » chez Hugo Doc. Et vous étiez en compagnie de Laurent Jeanne, maire de Champigny-sur-Marne, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et également avec vous, Jacques de Maillard, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous pouvez retrouver l'entretien que vous avez fait, Béatrice Bougnol, avec Jacques de Maillard dans le quotidien La Croix, qui est notre partenaire pour cette émission mensuelle avec vous. Merci beaucoup, Béatrice Bougnol. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Bail, Mathilde Tonfourcade, Hugo Boursier et Iman Gilles. Avec nous à la technique ce soir, Alexandre Dang, et à la réalisation, Alexandre Manzanares. Sachez que l'émission Le Rayon BD de dimanche à 16h sur France Culture sera consacrée aux violences policières, avec plusieurs auteurs et dessinateurs de bandes dessinées qui se sont consacrés à ce sujet. Didier Fassin, co-auteur avec Frédéric de Baumy de La Force de l'Ordre aux éditions Seuil Delcourt, et Amélie Mouget, rédactrice en chef de la revue dessinée. Dans le temps du débat, demain, comme chaque vendredi, vendredi, c'est la conversation mondiale. Deux intellectuels ou deux artistes ou deux écrivains du monde entier discutent l'un avec l'autre. En l'occurrence, demain, ça sera la philosophe Catherine Larère qui discutera avec l'essayiste et dramaturge allemand Fabian Scheidler, avec un titre qui s'appelle « Le pire est-il déjà arrivé ?» On va parler en particulier d'effondrement et de fin du monde d'une certaine manière, mais de fin du monde liée à la question climatique. Dans 3 minutes, vous retrouverez Maëlys Bessery pour Affaires culturelles. Vous écoutez France Culture, il est 19h et les titres de l'actualité vous sont présentés par Marie-Hélène Duvigneau. Bonsoir Marie-Hélène.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous.